Mauvais genre qui vous convie ce soir à prendre le dernier vol pour Medvedgorod, micro-république 6 entre Russie, Ukraine et mer d'Azov. État cité infernale, soumis en permanence à toute forme de violence, de démonisme, de transgression et de corruption. Une terre de labour diabolique cauchemardée depuis 2020 par notre invité, l'immense écrivain Christophe Siébert, qui lui consacre son dernier roman paru au Diable Vauvert, Une vie de saint. Un récit choral centré autour de la figure de Rasputin, évocation au second temps d'émission de Ferry Mappert de Paloma Hidalgo et chronique signée Hubert Prolongeau et Sixtine Audebert. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre. Mais pourquoi n'invitez-vous pas Christophe Siébert? Si j'avais touché un euro chaque fois que j'ai entendu cette phrase ou cette question, je serais aujourd'hui riche à milliards. En effet, depuis qu'il publie, on aurait dû très régulièrement inviter Christophe Siébert, ce que l'on n'a pas fait. Et ce scandale devait cesser et il cesse ce soir. Bonsoir Christophe Siébert.
Bonsoir.
On a parlé de vous quand même, c'est arrivé...
Plusieurs fois, oui.
Plusieurs fois, mais vous n'étiez jamais venu en chair et en os. Et des chairs et des os, il y en a dans vos livres sur ce plateau. Vous y êtes chez vous. Soyez bienvenus à Mauvais genre. À votre gauche, un siébertien historique, canal historique, Emmanuel Pierrat, bonsoir.
Bonsoir, Président Geôlier.
Tout va bien?
Tout va très bien, puisqu'on est à Mauvais genre.
Alors, Emmanuel Pierrat, maître Emmanuel Pierrat, du barreau de Paris, est là régulièrement pour... faire le plaidoirie de personnages qui ont vraiment besoin d'être défendus.
Défendre l'indéfendable.
La dernière fois, c'était le docteur Petiot.
La fois d'avant, c'était Sade.
Voilà, Sade, voilà, Casanova. Donc... Et ce soir, c'est Rasputin. On va voir les arguments que vous
Accueillant avez... beaucoup plus facile.
Oui, c'est vrai qu'en plus, il est mort. Assassiné, le pauvre. Donc, on va voir ce que vous nous en direz. Il y a également avec nous Hubert Prolongeau. Hubert, bonsoir.
Bonsoir François.
Tout va bien, vous êtes revenu, vous, l'homme des confins, des voyages, le globe-trotteur fiefé. Est-ce que vous êtes revenu en bon état de Medvedgorod?
Ah, je n'oserais pas y mettre les pieds, je ne suis pas sûr que
vous avez trop,
mes
trop
capacités
peur.
À survivre soient à ce point suffisantes pour échapper à cet enfer.
Très bien, ben on va savoir pourquoi c'est un enfer tout au long de cette émission. Sixtine Audebert, pour vous, Medvedgorod, c'est un enfer aussi?
Oh, c'est une ville de stupre et de sang qui me plaît et m'attire autrement qu'elle ne me repousse.
Très bien, ben voilà, on va en parler, on va écouter des extraits de ce roman ce soir. Puis surtout, on va resituer ce roman dans une grande saga, une grande série, une sorte de fresque énorme qui lui est consacrée et signée Christophe Siébert. Bonsoir Paloma. Mina Hidalgo.
Bonsoir François.
En fin d'émission, nous parlons avec vous de votre dernier livre paru aux éditions du Corlevoux, revue La Forge, Ferry Mappert. C'est entre, bon, ma foi, Aloysius Bertrand et Gabriel Witkop.
Vous trouvez.
Je dis ça, mais bon, on peut dire autre chose.
On le dira sans doute en fin d'émission.
Voilà, ça va. Vous attendrez et vous saurez, chers auditeurs. En attendant, j'ai demandé bien sûr à Laurent Polleret de nous imaginer ce que peut être sur un portrait sonore de la ville de Medvedgorod.
Россия, Украина, все равно это было неразделимо. По братскому союзу я скучаю. Даже вот когда я дерусь в драке, мне всегда нужно знать, что я прав. Мы полезли в драку на Украине. Я себя не чувствую правдой.
Ну вот приказ.
Ну думаешь, это правильный был приказ?
Не знаю.
Я пошел сегодня для того, чтобы завтра не пошли по нему.
То есть нас отправляют с закрытыми глазами, как слепых котят.
Voilà, Laurent Polleret ne fait jamais les choses à moitié. Vous reconnaissez votre création, cher maître?
Je connais pas ce morceau, mais j'aime bien les ambiances un peu post-industrielles et cinématiques du truc, ouais, les petits coups de feu au début, ça met dans l'ambiance directe, quoi.
Alors, avant qu'on en dise un peu trop, comment prononce-t-on très exactement le nom de cette ville?
Alors, un russophone m'a dit récemment qu'il fallait dire Medvedgorod.
Medvedgorod?
Ouais. Moi, je dis Mervek Gorod à la française parce que, je suis incrustre, mais...
Très bien, ben, on va essayer de suivre le russisan tant qu'il nous sera possible. Alors, commence bien sûr par une présentation de Christophe Siebert qui n'est jamais venu et dont on va parler ce soir avec lui. Sixteen Audebert,
oui,
présentation donc de l'homme de Medvedgorod.
Grand portrait. Voilà. Alors Christophe Siebert est né dans le sud de la France prolétaire, dirons-nous, d'une mère yougoslave, important à souligner. Et il a poussé sur le terreau brut des petits boulots et de l'alcoolisme familial. Il entre en mauvaise religion de la culture de genre dans les années 80 par le jeu de rôle, hein, une certaine SF matinée d'horreur. Et très tôt, surtout, il a la conviction qu'il ne voudra jamais travailler, c'est-à-dire se compromettre dans un boulot salarié, sacrifier 8 heures de sa journée derrière un bureau, au point qu'il a vécu à la rue, hein, dans une période de transition à Toulouse, après avoir fugué du domicile familial. Et c'est une expérience de la marginalité qui a été fondatrice, hein, d'une certaine esthétique qui parcourt ses romans et qui témoigne, ma foi, d'une radicalité qu'on chérit à mauvais genre. Alors, pour sa plume, il a été à bonne école. Il a été à l'école du bricolage et de la persévérance dans une quasi-solitude contre tous, s'escrimant dans quelques fanzines et inondant de ses textes les canaux de l'internet primitif. Il le dit dans son excellent petit fascicule qu'il faut signaler à l'auditeur.
Qui devrait être distribué dans toutes les écoles.
Et qui est en téléchargement gratuit.
Au lieu de regarder Adolescence, on ferait mieux de lire Siebert.
Sur le site du diable, en téléchargement gratuit. Hein. J'écrivais alors comme un bousier roule son caca, sans imaginer qu'une autre activité soit possible. L'écriture, donc, pour Christophe, est comme une névrose et une compulsion, parce que, a priori, évidemment, pour un adolescent, un jeune adulte, tout, voir ses copains sortir au ciné, aller au concert, est plus attirant qu'écrire. Et Christophe va développer donc une conception à la fois artisanale et mercenaire de l'écriture. On peut signaler que plus tard, il publiera 6 romans de gare dans la collection Médiamille sous la férule d'Esparbeck à La Musardine, où vous êtes toujours d'ailleurs directeur de collection, Christophe.
Salut La Musardine.
Ce qui le pousse à une définition minimale ou négative du style, très important, toutefois très influencé dans ses premiers textes par les expérimentations du roman français des années 90, hein, l'école de la phrase coup de poing des Pantiennes et du pessimisme welbeckien. Je ne sais pas si c'est des influences que vous revendiqueriez toujours, mais toute cette école, en tout cas, cette écurie nouvelle génération de j'ai lu, hein, la collection dirigée de main de maîtresse par Marion Mazorik, déjà à l'époque, dans le lointain paysage. Après donc un premier roman à La Musardine, il vient à mettre au monde son premier chef-d'œuvre, on peut l'appeler ainsi, Chez Rivière Blanche, Nuit Noire, qu'on pourrait définir comme le stade anal de la littérature, la confession...
Le bougier roule son caca, après on passe au stade anal de la littérature.
C'est la confession donc d'un tueur en série, avec un marasme organique et psychologique extrême, très infusé par une conception bataillenne du mal, et c'est d'une violence et d'une insanité redoutable, nourrie par une intense sensation. C'est le seul roman que je n'ai pas pu terminer, tant la lecture me suffoquait. Ça a été republié à l'époque dans la collection culte et aujourd'hui au Diable Vauvert, hein, dans une très belle double édition Métaphysique de la viande, qui a reçu le prix SAD en 2019. Et c'est à ce moment-là que Christophe entre au Diable Vauvert. Entre-temps, il y a eu encore d'autres publications, La Place du Mort chez Camion Noir, des recueils de poésie chez Gros Texte Édition et Une vie normale au dernier cri, que des infréquentables parmi ses éditeurs. Et donc en 2020, Christophe Siebert inaugure son cycle Mervagorod, dont Une vie de saint est issue, et dont nous allons amplement traiter aujourd'hui. C'est sa période conceptuelle, dirons-nous, dans sa carrière, mais nous allons en reparler. Peut-être pour finir, dire que vous êtes aussi avec Barbara Sadoul et l'équipe du Diable, le cofondateur du prix Sadoul, et peut-être que vous pouvez nous en parler.
Oui, j'organise le prix Jacques Sadoul de la Nouvelle, qui est un concours annuel donc d'écriture ouvert à toutes et à tous. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que dans ma généalogie de lecteurs, il y a vraiment une nouvelle génération de j'ai lu, qui est donc qui a été créé par Marion Mazorik, qui est maintenant mon éditrice, et la collection science-fiction, la fameuse collection Violette, créée par Jacques Sadoul dans les années 70, qui m'a également nourri, enfin où j'ai tout découvert de Lovecraft à Dick, en passant par Silverberg et tous les autres. Donc me retrouver maintenant édité par l'une et organiser un prix d'écriture rendant hommage à l'autre, c'est évidemment l'endroit où je voulais être.
Hubert Prolongeau, que rajouteriez-vous au portrait fouillé de Sixteen Audebert ? Hubert,
oui.
Hubert, es-tu là ? Oui, il est là.
Êtes-vous là ? Tout à fait. Moi, je voulais savoir, là, ce projet Mervek Gorod, jusqu'où va-t-il ? Est-ce qu'il est conçu avec un début bien sûr, mais une fin. Est-ce que vous allez le parcourir encore beaucoup? Où se situe une vie de saint à l'intérieur?
J'ai une organisation assez lâche de ce que je veux écrire. J'ai plusieurs pistes, plusieurs hypothèses d'histoire, et ça devrait m'occuper une vingtaine de volumes sur une vingtaine d'années. Et donc, si on suit ce rythme-là, une vie de saint à peu près au tiers du truc, et fait office d'une première synthèse de ce que j'ai écrit jusqu'à présent avant de lancer d'autres histoires, d'autres pistes narratives qui vont finir de tisser l'ensemble de cette saga.
Absolument, ça, c'est un travail de haute liste. Oui, Hubert.
Oui, vous l'avez conçu comme ça dès le début, ou c'est vous avancez en marchant et c'est petit à petit que de nouvelles briques s'ajoutent et que ça prend cette ampleur?
Ah, ça s'est fait en deux épisodes en fait. J'ai d'abord conçu la ville et tout l'univers de Mertvek-Gorod dans mon coin, c'est-à-dire là c'était 2 ou 3 ans d'être au Diable Vauvert. Donc j'étais vraiment sans éditeur important, enfin j'étais seul dans mon coin comme le disait Sixtine tout à l'heure. Et j'avais donc pas vraiment encore une idée du développement éditorial ou narratif du projet. C'est vraiment quand j'ai signé au Diable avec Métaphysique de la Viande et qu'on a réfléchi à la suite que j'ai eu l'envie de développer ce machin dans des proportions absolument démesurées. Et il s'est trouvé que Marion Mazorik m'a suivi dans cette idée absurde. Et donc maintenant, voilà, on continue.
Non, elle est obligée d'aller.
On continue jusqu'au bout. On continue tant bien que mal, voilà.
Jusqu'au bout de la nuit. Emmanuel Pierrat, on parlait de Métaphysique de la Viande, donc qui est le premier livre publié au Diable Vauvert par Christophe Siebert. Le livre paru aujourd'hui avec une phrase plus que louangeuse de vous. Qu'est-ce qui vous a agrippé sur touchant Christophe Siebert dès ses débuts? Ça remonte quand même à
ça. Ah, ça fait longtemps que je l'ai porté ou soutenu à une époque où il était, c'était un auteur maudit, entre guillemets, où il se complaisait plutôt dans la malédiction et dans l'opprobre. D'abord, il habitait Clermont-Ferrand, donc ça ne donne pas un gagnant d'emblée. Mais je dirais, j'ai rien contre nos amis auvergnats, au contraire. Il faut dire qu'aujourd'hui, il habite à Bucarest, donc c'est un choix. Ça lui semble être la Floride, mais chacun son rayon. Et il publiait effectivement, comme l'a dit Sixtine tout à l'heure, chez Camion Noir, Camion Blanc, Camion Gris, des éditeurs qui concouraient tous à l'insuccès. Et j'avais très peur, d'ailleurs, qu'il veuille se continuer dans cette voie. Et moi, j'ai été son agent littéraire à titre bénévole, par sympathie et par amitié quand même pour cette chose étrange qui était l'écriture de Christophe, avec des livres que moi j'ai dû finir à la différence de Sixtine. donc j'ai lu évidemment en essayant de l'aider un peu à faire le tri, et on a contacté et on a eu la chance. C'est à un moment on a parlé du Diable Vauvert qui me semblait une chose évidente et le marchepied qu'il fallait à la portée de l'écriture de Christophe. Il s'avère que je suis complètement en conflit d'intérêt parce que 1, j'ai été son agent, 2, son préfacier pour Métaphysique de la Viande, et 3, on lui a donné le prix Sade dont vous étiez juré, dont vous êtes juré, cher
J'assume.
Président, dont je suis le président. Donc on était en plein conflit d'intérêt, on a fait ce qu'un prix littéraire doit faire, quasiment magouillé pour arriver à faire se concorder toutes les planètes. Voilà. Mais c'était vraiment pour l'amour de la littérature. L'amour de Christophe Siebert, c'est autre chose.
C'est autre chose. Ça fera l'objet d'une autre émission. Alors, effectivement, je reparle de fabrication d'un écrivain. On suit votre parcours où l'écriture est vraiment, on peut les mots bateau, la planche de salut, le véritablement ce qui vous a... Si vous avez cramponné cette pratique que vous avez cramponné sauvagement pour justement tenir face à la vie quotidienne, tenir face aux situations familiales, tenir face à aux jours et aux mois qui défilaient dans la souffrance, la douleur. Alors néanmoins, ce qui m'intrigue, c'est que vous êtes un auteur extrêmement lyrique, profus, abondant. Vous êtes sûrement l'homme des très gros manuscrits qu'il faut transformer en gros manuscrits. Ça, je pense pas que Mario Mazorik disent le contraire. Et néanmoins, vous avez fait des débuts dans des secteurs où le calibrage règne d'une main de fer. Que ce soit la Musardine, c'est des livres qui ont quand même un format, comme au Fleuve Noir, comme ailleurs. Que ce soit chez Mediamil, il y a quand même, dans la littérature populaire, c'est le règne du calibre. Alors comment vous arrivez à articuler les deux, à la fois une espèce d'inspiration pulvérulente, proliférante, permanente, érotique, pornographique, horrifique, fantastique, tout ce qu'on veut, et en même temps, la canalisation qu'il faut dans ce type de pratique.
Bah effectivement, quand j'ai commencé, quand j'ai publié mon premier roman à la Musardine en 2007, il se trouve que Esper Beck, donc auteur, éditeur mythique que je pense les auditeurs de Mauvais Genre connaissent bien, a apprécié ce roman. Et comme de mon côté, je me rêvais en soutien de l'édition, c'est-à-dire à écrire 15 bouquins par an pour vivre, comme le faisait Simenon ou Bouchelot à une autre époque, je l'ai contacté pour écrire dans sa collection. Il m'a très vite détrompé, hein, ça ne marchait plus du tout comme ça, et on écrivait un bouquin par an, on n'en vivait pas du tout. Mais c'est n'empêche lui qui m'a appris mon métier, effectivement. Donc ce calibrage de 200 000 signes dont vous parliez, il était très rigoureux, puisque donc... Il fallait écrire un bouquin pour nous de 200 000 signes, dont à peu près un tiers du calibrage était consacré à des scènes de cul, ce qui laissait très peu de place pour faire exister des personnages et raconter une histoire et développer éventuellement un point de vue sur le monde.
Ah oui, ce qui est quand même votre but.
Ah oui, oui. Parce
que le but de Christophe Sieber, c'est justement ça, c'est délivrer une vision du monde. Donc c'est pas très facile.
Tout à fait, et j'ai été à très bonne école parce qu'Esper Beck n'était pas un tendre. Ses remarques sur mes manuscrits étaient souvent dures, souvent justifiées. Et en six bouquins que j'ai fait en deux ans dans sa collection, j'ai appris mon métier. Enfin, j'ai fait mon CAP auteur auprès de lui. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai écrit ensuite Nuit Noire, dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, Nuit Noire, c'était le livre que je voulais écrire en mettant ce que j'avais appris à Esper Beck au profit d'une histoire plus personnelle. Voir si je pouvais écrire des choses à moi avec ce savoir-faire-là. Et donc, ensuite, voilà, le chemin s'est poursuivi. Mais je sais pas si je suis un auteur de gros manuscrits. C'est assez récent, en fait, comme développement, comme boursouflure de mon travail.
Oui, vous êtes un élève de Lovecraft, ce qui vous ramènerait plutôt vers la nouvelle ou la novella, mais également un adorateur de Stephen King, ce qui vous donnerait plutôt le goût des grandes voilures. Quoi.
C'est
l'inspiration de Lovecraft avec les tomes maison Stephen King.
C'est ça, et là, il semblerait que je sois dans une période un peu plus profuse. Ouais.
Voilà, très bien. Bah, vive cette profusion. On va en écouter un extrait donc de cette vie de saint, qui n'est pas un titre siébertien, pas a priori évident, non. Mais qui effectivement se révèle tout à fait pertinent. C'est au cours de la première nuit passée avec Witold que le principe du monde renversé m'est apparu clairement, m'expliqua Nikolaï. Il fallait lire le monde manufacturé comme une inversion radicale, un renversement symétrique et systématique du vrai monde. La mort de mon frère, une sanctification. Le viol d'un enfant, un acte amoureux. Le péché, une communion. Le responsable du parti, un prêtre de Satan. Ironie du sort, prétendent les aveugles. Moi, j'y vois des signes pointant le mensonge du démiurge. Moi, j'y vois des preuves. Un genre involontaire de la belle dame, Witold m'a révélé à moi-même. Puisque tout son enseignement était un mensonge, alors il devait aussi être un chemin conduisant à la vérité. Puisque chacun fait historique, chaque analyse politique, chaque règle de grammaire, chaque mot qu'il prononçait était un mensonge, alors à chacun de ces mensonges devait répondre dans le monde renversé une vérité. C'est cela que j'ai compris grâce à lui. Et j'ai aimé apprendre sous son compagnonnage les lois du monde factice, les lois qui régissent la prison édifiée par le démiurge. Un extrait d'Une vie de saint de Christophe Sieber, notre invité de ce soir dans Mauvais Genre, un livre paru aux éditions Au Diable Vauvert. Alors, il faut maintenant, vous en avez parlé avec Hubert Prolongeau, cadrer un peu cette histoire, Sixtine Audebert. Il faut cadrer, effectivement, reparlons du cycle de Mertvek-Gorod et la manière dont Une vie de saint s'inscrit dedans, puisqu'il y a des fondamentaux, il y a une vision du monde qu'on vient d'entendre, largement inspirée par le gnosticisme cher à notre ami Paco Mthielman. Il y a un univers historique
qui sert de base, de matériau de base, qui est le monde soviétique ou post-soviétique. Et puis, il y a une vision post-apocalyptique qui est récurrente et fondamentale. Sixtine.
D'abord, Hubert avait commencé à l'évoquer un petit peu. Je pense que Christophe pourrait expliquer pourquoi il a fait ce choix d'entrer dans ces règles de composition, hein, de ce concept, pour diriger une œuvre et lui donner une charpente qui est, ma foi, extrêmement complexe, hein, puisque nous avons ici, il me semble, Christophe, vous me redirez les deux séries qui sont parallèles et qui construisent, les trois séries qui construisent le cycle Mervagorod. Mais il y a une architecture extrêmement complexe qui permet effectivement de construire un univers total. Hein, il y a une véritable volonté. Alors, il faudrait donner la métaphore éculée de la comédie humaine, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de construire une réalité probable parallèle. Hein, d'abord le terme que vous avez employé, François, ce monde post-soviétique correspond déjà à un discours peut-être politique. Et ce monde serait une vision dystopique. Je sais que c'est un adjectif, enfin un concept, un nom que vous ne validez pas pour parler de ce cycle. Donc, quelle est la façon dont les choses sont pensées ?
Christophe Schébert.
Dystopique, je suis pas sûr. On va y revenir. Mais le point de départ, moi, de Mervagorod, c'était vraiment un plaisir de lecteur que j'avais notamment en lisant Bukowski ou en lisant Elroy ou en lisant tous ces auteurs qui étaient les auteurs d'une ville finalement.
Los Angeles
ou même le Paris de Léo Mallet par exemple. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, c'est bâtir un décor assez vaste et assez riche pour accueillir tous mes personnages, toutes mes histoires, toutes mes préoccupations, tout ce que j'avais à dire, tout ce qui me passionnait, tout ce qui me préoccupait, tout ce qui m'épouvantait dans le monde réel. Bâtir un décor où tout ça pouvait rentrer et coexister sans incohérence et sans hiatus. Et donc j'ai passé un an ou deux à construire cette ville. Il s'est trouvé qu'elle s'est placée à cet endroit-là du globe et de l'histoire.
Alors je répète le descriptif, c'est entre Russie, Ukraine et mer d'Azov.
Voilà. C'est ça. Mais en fait ça, bon, maintenant c'est marrant de le dire, enfin marrant entre guillemets vu ce qui se passe actuellement dans la région, mais c'était absolument fortuit en fait. C'est-à-dire que moi j'avais besoin d'un endroit où je puisse coller une mégapole de plusieurs millions d'habitants qui avait une existence qui se comptait en siècles, voire en millénaires. Et donc, par élimination, en fait, je suis arrivé au sud-ouest de la Russie, ce qui m'a paru l'endroit le plus pratique pour installer mon décor, où ce serait le moins incohérent et où j'aurais le moins de travail de documentation. Parce que, par exemple, si je le mettais en Sibérie, rien que pour des questions de météo et de climat, c'était infaisable.
Il y a quand même un souci réaliste. Oui. C'est là où on retrouve la dimension balzacienne.
Oui, complètement. Complètement. L'idée de départ, quand j'ai fabriqué ce décor, c'était vraiment d'ajouter de mon côté des tas et des tas d'informations. Ça va du plan du métro aux indicatifs téléphoniques, passant partout n'importe quoi, qui sont pas dans les livres, mais que moi j'ai dans ma documentation, et qui me permettent en fait de croire dur comme fer au truc. Tant que j'y crois, je peux écrire.
Quand vous circulez à l'intérieur, parce que ce genre de pratique est propre d'habitude aux auteurs de fantasy qui vous livrent toujours une somme qui s'ouvre toujours par une carte. Alors il y a les îles de ceci, le royaume de cela, le duché de machin. Mais vous, au contraire, vous prenez la réalité telle qu'elle est, une espèce de climat contemporain, et à l'intérieur de ça, vous créez une fantaisie noire, une urbaine fantaisie noire et crade et violente.
Oui. Le point de départ, c'était pas du tout de créer un monde parallèle ou fictif, au contraire. Enfin, d'ailleurs, mes modèles, je les ai cités, hein, c'était le Los Angeles de Delroy, et c'est pas du tout le Arkham de Lovecraft, par exemple. C'est vraiment des villes réelles. Et mon point de départ dans tous mes textes, enfin, que ce soit Mervagorod ou ceux que j'ai écrits avant, ou sûrement ceux que j'écrirai après, c'est de toute façon parler du monde réel, parler des gens dans le monde réel et parler d'une certaine catégorie de gens dans ce monde réel.
Hubert Prolongeau.
Vous avez choisi une construction très chorale, donc par fragments. C'est-à-dire le livre est un assemblage de textes, d'extraits de livres, certains du saint, d'autres de certains de ses amis. Est-ce que vous avez envisagé de pousser la démarche jusqu'à l'hétéronyme, jusqu'à créer divers auteurs et signer d'autres livres, d'autres noms que la vôtre? Et que vous inspire la démarche de Volodine, auquel moi, Une vie de saint m'a fait penser, dans l'ambition du projet?
Christophe Siebert.
Ben, c'était le point de départ, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à Mertvek Gorod. Comme le disait Sixtine, dans mon esprit, il y avait trois cycles qui coexistaient et qui auraient dû être chacun chez un éditeur différent, avec un hétéronyme différent. Enfin, j'appelais ça ma Volodinade, donc effectivement, le rapport à Volodine était assez clair. Et bon, pour des raisons diverses, éditoriales, etc., ça s'est pas fait. Finalement, tout sort sous le nom de Siebert et au Diable Vauvert. Mais ce rapport au narrateur et aux différents filtres narratifs, c'est toujours un truc qui m'a passionné. Enfin, si on prend Une vie de saint, un des intérêts de multiplier les instances narratives et de multiplier les sources, c'est aussi, par exemple, que les délires du Svatoï à propos de la belle dame ou de la gnose.
Alors, on va en parler.
Ouais. Le lecteur ne peut pas savoir s'ils sont à prendre pour argent comptant ou si c'est le délire d'un fou furieux. On ne sait pas si c'est un bouquin fantastique ou un bouquin sur un psychotique.
Alors, cette vie de saint, elle est organisée autour de figures. Alors, il y a Mishima, qui est présent notamment vers la fin, quand il y a des scènes de coups d'État, d'exécution collective et autres. Mais elle est centrée surtout, d'abord et avant tout, autour de la figure de Rasputin. Alors, quel est un petit peu... Pourquoi choisir Rasputin et pourquoi organiser, en faire une espèce de prophète de la fin des temps, ce qu'il était plus ou moins, d'ailleurs?
De mon point de vue, le Svatoï est vraiment 50% Mishima, 50%...
Svatoï, ça veut dire...
Le saint, voilà, c'est en russe, qui est donc le surnom autoproclamé qui s'affuble, Nikolai le Svatoï. Ouais. Et qui est pour moi, enfin, dès que j'ai commencé à réfléchir au personnage, je le voyais comme un mix quasi à part égale de Mishima et de Rasputin, parce que c'était, pour des tas de raisons diverses, liées notamment aux musiques que j'écoutais, des figures historiques qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué et fasciné. Et ça m'intéressait de voir aussi comment ce mélange-là pouvait opérer, en fait, dans un personnage de fiction.
Alors pourquoi justement ce Rasputin, qui est, l'histoire nous montre un personnage qui est à la fois une espèce d'ascétique sensuel, une espèce d'ambition effrénée, en même temps une pauvreté native comme ça. Il y a que c'est un personnage complexe qui rejoint quand même beaucoup de vos thématiques. C'est un homme de la rue, et un homme des palais, c'est un homme d'une espèce de folie sexuelle et en même temps une sorte de prêtre mystique. Il y a tout chez... Il y a tout pour vous, j'ai envie de dire, cher Rasputin.
Oui, c'est ça qui me fascinait. J'avais besoin d'un personnage, disons, d'un héros, entre guillemets, pour raconter l'histoire de cette ville des années 70 à l'attentat qui est le point de départ du livre.
C'est plus qu'un attentat, c'est un cataclysme apocalyptique.
Un attentat assez violent. Et effectivement, cette figure-là, inspirée de Rasputin, me paraissait le mieux, parce que c'était le personnage le plus adapté pour aller explorer toutes les zones de cet univers et prendre à son compte toutes les contradictions sans jamais devenir incohérent. Enfin, j'aurais pas pu créer un personnage aussi tordu, aussi complexe et aussi contradictoire que Rasputin.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'histoire, c'est vraiment presque une contre-agiographie, c'est-à-dire vous racontez, comme l'indique le titre, la vie d'un saint. Donc, il y a au départ le traumatisme, la mort de ce frère, il y a une espèce de séjour qui est normalement fatal au fond d'un lac gelé, mais qui se transforme en révélation mystique, l'apparition de qui ? De la belle dame, c'est-à-dire de la Vierge, dont on sait qu'elle est importante pour la religion orthodoxe, et à partir de là, le don d'un certain nombre de pouvoirs de guérisseurs, et tout ça se mélangeant avec une sorte de coquinerie supérieure et d'arrivisme absolument extraordinaire. Là aussi, vous avez travaillé comment ? Puisque moi j'ai pensé, évidemment, on peut penser au 19e siècle, avec cet abbé Boulan qui avait créé une secte érotico-mystique, notamment où les rites fécaux étaient importants. Il y a un peu de ça, il y a tous ces grands aventuriers de l'histoire russe, c'est un peu tout ça, Christophe Siebert.
C'est un mélange de tout ça, c'est un mélange effectivement de mes lectures des romans russes, de mon désir de montrer une sorte de métaphore un peu brutale et directe des apparatchiks des années 70 et 80, puis de la chute de l'URSS. Et c'était aussi une manière de redigérer et de redonner au lecteur tout ce que j'avais lu de Lovecraft et l'ésotérisme quand j'étais adolescent, tout le rapport au golem, tout le rapport au...
Oui, parce qu'on est quand même à la fois dans du contemporain. On pense évidemment à l'effondrement de l'Union soviétique, même à la Russie d'aujourd'hui. Mais il y a une espèce d'ouverture lointaine vers des zones archaïques et plus qu'archaïques, un peu lovecraftiennes, avec les fameux, la monolithe de pierre noire, des rituels, des sectes. Donc vous brassez quand même toute l'histoire russe qui est féconde en secte religieuse mystique, et puis le culte de l'État, le fonctionnement des mafias, il y a tout.
Mais ça, c'est une chose qui me vient de Burroughs, en fait, de William Burroughs. Et dans un de ses textes, il développe l'idée que le pouvoir, c'est une sorte de virus ou de drogue, enfin en tout cas, c'est une entité en soi. Et ça m'avait, j'ai lu ça quand j'avais 15 ou 16 ans, ça m'avait extrêmement frappé. Et je crois que j'ai enfin trouvé le bouquin, enfin écrit le bouquin qui était la réponse à ça, c'est-à-dire voir. Si le pouvoir était une maladie, qu'est-ce que ça pourrait donner comme conséquence réelle? Et donc, je pense, c'est Mère Dagor dans les années 80, quoi.
Alors, cette vie de saint est une vie tissée, pétrie plutôt, parce que vous comparez un boulanger, donc pétrie à pleine main de violence, de noirceur, de saleté, de tout ce que l'on peut imaginer comme sécrétion immonde sortant, rentrant dans l'homme. On va en avoir un exemple avec Sixtine Hautbert. Je ne parle pas de sécrétion immonde, je parle de lecture, bien sûr.
La lumière décline, au bout d'un moment disparaît. Je reste longtemps dans le noir. Depuis que je suis revenue à moi, je n'ai pas cligné des paupières. J'essaie, je n'y arrive pas, je ne suis pas sûre d'avoir des paupières. Encore du temps. Deux mouches s'accouplent sur mon œil. Encore du temps. Sur mes yeux, des larves apparaissent, grossissent peu à peu, blanches, translucides. J'imagine d'autres larves dans ma bouche et mes plaies. Encore du temps. À cause des larves, sur mes yeux, je ne vois plus rien qu'une sorte de gelée blanchâtre. Les odeurs deviennent plus fortes, plus détaillées. Le sang pourri, la merde, la vase, la pisse. Encore du temps. Les larves éclosent, des asticots. L'odeur qui émane de mon corps plus puissante. Encore du temps. Les asticots grouillent sur mon corps. Ils me bouffent. Encore du temps. Je bouge un peu. Et puis, de mieux en mieux, je me sens faible. Si je me libérais des algues qui m'entravent, des roseaux qui me maintiennent, je coulerais au fond de la rivière. Encore du temps. Je me souviens du lac. Encore du temps. Je me souviens de mon frère. Encore du temps. Je me souviens de mon nom. Encore du temps. Je me souviens de la belle dame. Encore du temps. Je me souviens de tout le reste. Un matin, trois renards blancs sont assis sur la berge non loin de moi. Ils me regardent. Je sais qui ils sont. Je sais qui les a envoyés à moi. Ils s'approchent. D'abord, ils déchirent mes vêtements avec leurs crocs et leurs griffes. Avec leurs crocs et leurs griffes, ils me déshabillent. Une fois que je suis nue, ils me lèchent. Ils ne font rien d'autre pendant des jours, des nuits. Ils me lèchent le corps. Ils me lèchent la peau. Là où la peau a disparu révèle la chair noire et friable. Ils lèchent la chair noire et friable. Là où la chair est creusée jusqu'aux tendons, jusqu'à l'os. Ils lèchent les tendons. Ils lèchent les os. Partout où les renards posent leur langue, la douleur revient, vive, insupportable, une brûlure puis disparaît, remplacée par une fraîcheur humide bienfaisante, leur salive. Ma chair se régénère, mes plaies se referment. Je revis. L'oligarque est mort. Le Svatoï revit.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà un extrait de Une vie de saint de Christophe Siébert, lu par Sixtine Hautbert. Effectivement, là, c'est un aspect du texte, puisqu'il y a un matériau textuel extrêmement intense, épais, lourd, violent. Il y a de tout dans ce livre, Christophe Siébert, des rituels orgiaques, des exécutions capitales, des extases mystiques, des explosions d'infrastructures architecturales qui s'effondrent. Vous jouez sur une espèce de ligne temporelle qui est totale. C'est-à-dire, on vient des origines, au-delà des origines, et on va même encore dans le futur proche. Vous circulez en permanence sur tout cela.
Mais je crois que ce que j'aime surtout donner au lecteur, c'est vraiment des émotions fortes. C'est l'attraper, l'embarquer dans une espèce d'énorme grand 8 ou d'être un fantôme qui ne va jamais s'arrêter, ne va jamais le lâcher jusqu'à la fin du bouquin. Et donc voilà, ouais, j'ai recours à tout un tas d'outils, effectivement, de la grosse politique, de l'horreur, de l'architecture, plein de choses, des personnages souvent exagérés, souvent qui vont au bout d'eux-mêmes, qui sont dans des crises très fortes. Et tout ça me permet, enfin j'espère en tout cas, de provoquer chez les lecteurs et les lectrices des émotions extrêmement fortes et peut-être de leur redonner une vision du réel un peu...
De leur rendre le réel.
De leur rendre le réel, oui, c'est exactement ça.
Ouais. Parce que l'impression, Sixtine confirmera peut-être, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans une espèce de cauchemar, d'irréalité, d'échapper au monde. Au contraire, on rentre dans le monde, on est dans l'épaisseur, l'épaisseur du monde.
Et même dans les passages les plus fantastiques ou les plus oniriques ou cauchemardesques, j'essaye de faire un effort pour que tout soit extrêmement trivial, extrêmement concret, qu'il n'y ait pas de... Justement, oui, qu'il n'y ait pas de choses abstraites, on est toujours dans la matière.
Hubert Prolongeau.
Alors justement, dans cette vision du sexe très extrême, très violent, instrument de pouvoir que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas aussi au bout une tentation puritaine?
Ah, c'est une question intéressante. Alors c'est marrant parce qu'il y a un universitaire qui avait produit un travail sur la notion de sexe dans mon boulot. Et il est arrivé à la conclusion avec laquelle je suis assez d'accord qu'effectivement, il y a très peu de scènes de sexe dans mes textes qui décrivent des rapports humains ordinaires. On est toujours dans des rapports sexuels qui sont des notions de pouvoir ou de domination. Après, je pense pas que ce soit puritain, non. Je sais pas. Enfin, ou alors c'est totalement inconscient et involontaire, et je m'en excuse.
Non, vous en prie. On ne s'excuse pas, mauvais genre. C'est une autre belle.
Mais c'est vrai que, quand même, vous repoussez fréquemment les limites à la fois de la décence, du politiquement correct. Et vous avez, par le passé, été ennuyé. Il y a un épisode fameux dans Fabrication d'un écrivain. Où on vous demande est-ce que vous croyez que la fiction que vous écrivez est vraie. Alors,
Ah non, mais ça, c'est une histoire tellement absurde. Ouais. Ça, c'était vraiment à la fin des années 90, où j'avais encore ni éditeur, ni public, ni absolument rien. Et donc, j'écrivais mes textes sur un site internet, et l'un de ces textes était un peu violent sur le plan cul. C'est écrit une dystopie, justement, dans laquelle un écrivain célèbre avait un enfant de 8 ans qui lui était offert comme service rendu, quoi. Donc, il faisait ce qu'il voulait avec. Ça faisait un texte assez scabreux. Et il s'est trouvé qu'une juge d'instruction à Paris est tombée sur ce texte et a décidé de venir un peu me chercher des poux dans la tête. La brigade des mineurs a débarqué chez moi le 1er avril, donc j'y croyais pas beaucoup.
1er avril.
Mais bon, ils ont vite compris que j'étais pas du tout un criminel dangereux, donc la garde à vue s'est très bien passée, etc., etc. Mais j'ai effectivement eu un rappel à la loi. Et je sais pas si c'est encore le cas à présent, Maître Pierre nous le confirmera, mais à l'époque, pour les affaires de mœurs comme ça, on avait un passage obligé devant le psychiatre. Qui donc m'a posé cette belle question, mais vous croyez vraiment à ce que vous écrivez? Et donc j'étais c'est-à-dire c'est de la science-fiction, c'est un peu, je suis pas sûr non plus. Et c'était très embarrassant. En plus, le type était... Enfin, il y avait une collection de boules à neige, je me souviens. Il y avait une trentaine comme ça. C'était une scène bizarre.
Christophe Siébert, Une vie de saint, c'est aux éditions Diable Vauvert, un roman très largement centré autour de l'extraordinaire figure de Rasputin. Et Maître Emmanuel Pierrat, maintenant, comme avec le bon docteur Petiot, ouais. Va donc nous faire une plaidoirie pour Rasputin. Maître Pierrat.
Merci Monsieur le Président Geôlier, mesdames et messieurs du jury. Ça me semblait à peu près évident que j'allais être commis d'office pour plaider pour Rasputin, d'abord par mes liens avec Christophe Siébert, quand j'ai reçu les 500 pages d'Une vie de saint, Mishima, oui, mais il y avait un quart ou 25 pages à la fin, donc c'était Rasputin. Et puis Rasputin, je l'avais déjà croisé deux fois dans mon cabinet d'avocat, d'abord parce que j'ai défendu pendant longtemps la succession d'Hugo Pratt, et qu'il est difficile de lire Corto Maltese sans croiser Rasputin, sous un jour toujours favorable. Hein. C'est la seule personne qui soit amie avec, une, avec le marin et qui veuille en permanence l'assassiner ou lui donner un coup de fusil et dont l'amitié est préservée d'épisode en épisode. Et il y a cette chose merveilleuse dans Corto Maltese en Sibérie. Il y a cette phrase où Rasputin lui dit « Dieu seul sait que le monde est moche, sans aventure, sans, sans poésie, sans fantaisie. » Voilà, c'est un beau programme. Puis il y a une deuxième occasion à laquelle j'ai rencontré pratiquement Rasputin dans mon bureau. J'étais très jeune avocat et j'ai reçu la visite d'un père dominicain, enfin plutôt d'un moine dominicain qui s'appelait Jacques Laval, que vous avez peut-être lu, monsieur le président Geôlier.
Certes.
C'était un homme qui a commencé par me dire qu'il avait été, il était moine dominicain, il était très âgé, on était à la, au début des années 90, et il a commencé par me dire « j'ai été l'amant de, du prince Youssoupov ». Alors, prince Youssoupov, hein, l'assassin ou celui qui a comploté pour assassiner Rasputin. Donc moi, je me suis vu d'un seul coup projeté en 1916 au moment de l'assassinat de Rasputin et j'avais la sensation de toucher du doigt comme ça le 19e siècle ou, le, la, la, ou la fin, en tout cas la fin du 19e et la fin, le début du 20e. Et le Jacques Laval était un personnage assez curieux par ailleurs qui écrivait des romans chez Gallimard sous le pseudonyme de Jean Lorbet, était, avait été ordonné prêtre après avoir, été, avoir une vie d'homosexuel très débridée dans les années 30. Il avait été ordonné prêtre dans le diocèse de Reims en 1937 et il vivait, pour des raisons mystérieuses, entouré de tableaux de Nicolas de Staël dans une cellule dans un monastère du 13e arrondissement. Et il me demandait en termes pudiques de rédiger le testament en faveur de quelques amants pour que cela échappe à l'ordre des dominicains qui l'hébergeaient. Voilà, c'était le et il me parlait de Youssoupov comme d'un héros en permanence dans les deux pour deux raisons hein, la sexualité et l'assassinat de Rasputin. Alors je veux dire quand on regarde bien Youssoupov quand même il a tout raté puisqu'il a tué Rasputin en 1916 et en 1917 lui-même enfin très peu de temps après la révolution d'octobre lui-même sera viré de Russie donc et puis en plus très vite l'image de Rasputin sera exécrée par les soviétiques qui en feront une image de propagande pour raconter le stupre, le lucre, la débauche du régime tsariste et de ses inféodés. Et donc il y a une sorte de mythologie 13 pour moi en faveur de mon client Rasputin qui se développe évidemment pendant dans la Russie soviétique. On dit d'ailleurs et on renvoie à un certain nombre de choses qui sont alors vraies ou fausses, qu'il viole, il déflore des nonnes, il viole des princesses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on peut voir, à la gloire de mon client, le pénis conservé dans du formol au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Il s'avère que pour des hasards divers et variés, une servante qui aimait beaucoup son maître, lui a coupé le pénis après sa mort, l'a conservé, l'a transporté à Paris en exil, avec des Russes blancs, et avant que ce pénis ne se retrouve miraculeusement aujourd'hui à nouveau exposé en Russie, sans que ça fâche visiblement M. Poutine. Il faut dire aussi que Rasputin s'en est pas mal servi. Hein. Il s'est marié très très jeune, sa femme avait 19 ans, elle a eu 5 enfants en moins de 3 ans, quasiment, 4 ans. On lui prêtait après une dizaine de maîtresses par jour, ce qui est pas mal, par jour. Donc, lorsqu'il organisait des fêtes dans son appartement moscovite, et puis aussi, alors à la décharge de Rasputin, il y a son côté bienfaiteur quand même. Il guérissait les animaux et disait en tout cas pouvoir guérir les animaux et les humains. Son père, qui avait été maquignon, était supposé entretenir des rapports magiques avec les chevaux. Donc visiblement, la Russie profonde emmenait quand même un certain nombre de délires, mais qui sont plutôt sympathiques. Et puis enfin, Rasputin, quand même, il faut toujours plaider l'enfance de son client, était tombé dans les eaux glacées, comme vous le savez, et son, effectivement, comme le raconte aussi bien Christophe Sieber, et son frère Andrei a été mort de la pneumonie subséquente à ce plongeon involontaire dans les eaux glacé. Voilà, je terminerai pour dire, monsieur le président, qu'il faut vraiment plaider l'indulgence ou accorder l'acquittement à Rasputin. C'était un grand pacifiste, malgré tout cela, et qui voulait absolument pas que l'Union soviétique, enfin plutôt que la Russie tsariste, rentre en guerre avec le reste de l'Europe. Donc quand on voit dans quel état elle est aujourd'hui, et notamment dans les romans de Christophe Sieber qui sont à peine exagérés, il faut absolument que vous prononciez non relax ou un acquittement total.
J'acquitte donc Rasputin. Paloma Hermina Hidalgo, Ferry ma perte, revue La Forge édition de Courlevour, donc deuxième invité ce soir de Mauvais Genre. C'est un petit recueil de 60 pages, extrêmement dense. Ce sont des poèmes, on peut le dire, des poèmes en prose. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Eh bien, je crois que ça procède d'une espèce d'indistinction générique. Effectivement, je le présente comme un recueil poétique, mais il oscille entre poésie, donc théâtre, autobiographie cryptée, conte grotesque, théâtre des poupées, poétique de la démesure, micro-opéra, arôme théologico-mystique. Voilà, un brassage des genres, c'est une forme qui déborde les genres, un peu comme, je ne sais pas, le sang déborde du mythe ou comme le désir déborde de l'enfance, avec une langue assez hallucinée, je crois.
Alors, quelle était la comment se suit la construction? Parce qu'il y a au cœur de cela un objet qui est tout à fait mythique et fascinant, c'est un castelet. Mmh. Et ce castelet donc est peuplé de marionnettes, et ce sont en définitive les marionnettes qui créent l'histoire, qui s'expriment et qui servent d'une sorte. Mais ça, c'est pas des marionnettes qu'on manipule, c'est plutôt les marionnettes qui manipuleraient plutôt tout, comme et un peu ensorcelées.
Il y a aussi cette figure tutélaire, celle de maman, qui est à la fois le démiurge et la putain, une manière de Gepetto au féminin qui façonne effectivement ces poupées. Moi, j'appelle ça plutôt des poupées, mi-chair, mi-bois, des Pinocchia, si vous voulez. Alors, est-ce qu'elles sont animées? Est-ce qu'elles sont inanimées? Nous l'ignorons, moi-même, je l'ignore. Et en miroir, il y a Poupa, la fille humaine de maman, qui fabrique effectivement un théâtre de la punition sadienne et des délices, qui improvise des décors, des costumes, des rites. Et sa mémoire transforme en quelque sorte le flot des épisodes maternels et pornographiques, même plus qu'érotiques, en tout cas obscènes. Elle les transforme en tableaux baroquisants.
Parce qu'entre la maman et pas la putain, mais la poupa, il y a quelque chose de rapport d'inceste, de rapport oui. mystérieux, de rapport un peu initiatique et cruel.
Oui, oui, l'enfance incestueuse et violée est un motif obsessionnel qui marque ce texte. D'ailleurs, comme tous mes livres, ce texte prend origine dans un matériau autobiographique. J'ai moi-même connu l'épreuve des viols répétés depuis la petite enfance et l'adolescence, cette épreuve de la pédophilie et de l'inceste, mais néanmoins, j'en parle certes, mais je transcende cette expérience par la violence de l'imaginaire, par la liberté de la fiction, du drame baroque et du conte de fées.
Alors justement, comment transcende-t-on pareille expérience? Parce que là, vous faites appel à un univers qui, là, du coup, à la différence de celui de Christophe Siébert, est un univers là, vraiment onirique, là, véritablement de toile peinte, un univers presque de fête foraine.
Bien sûr, oui, oui. Je voulais en fait tenter de créer un objet, un univers paradoxal qui défie toute tentative de normalisation ou de récupération signifiante. C'est-à-dire, c'était mon idée de créer un texte cru, vivant, qui joue à la fois sur la profusion littéraire, baroquisante, comme je disais tout à l'heure, et sur l'oralité, avec tout un système d'opposition, d'antithèse, par exemple, l'homme vivant, parce qu'on a par exemple cette scène au fil de la progression poétique où on assiste, pour donner un exemple, du paysage, on assiste à la sodomisation d'un évêque par une armée de poupées, on assiste à la pulsion de tuer maman, qui offre sa fille au mec de 50-60 berges, à moins peut-être que ce ne soit l'inverse, sodomiser sa propre mère et tuer l'évêque, tout ça au milieu des paysages d'une Floride totalement fantasmée.
Et qu'on n'est pas si loin, Christophe Siébert, de
Rasputin,
Emmanuel Pierre.
Tout à fait, les analogies. Chez Mishima aussi.
Mais alors là, il y a une dimension. Alors là, je ne vais pas vous faire le coup, la Paloma Hermina Hidalgo, il y a une dimension espagnole. Oui. Moi, j'ai pensé, alors je citais en ouverture d'émission Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, la naissance du poème, du fragment poétique, du poème en prose.
Bon, merci.
Il y a un peu Gabriel Witkop ou Mandiargue, dans cette espèce de. Ou Léonore Fini, dans cette espèce de surréalisme ultra ornemental, baroque et profus comme ça, mais il y a aussi Buñuel. Et moi, je pense plutôt au film de Buñuel.
Il y a une veine, peut-être, que je revendique au-delà de l'ornement et du pur style, de la pure stylistique. Pour moi, c'est assez baroque, mais un baroque remanié et qu'on pourrait voir un peu au sens dramaturgique, philosophique. Je ne revendique pas l'esthétique baroque comme une simple enveloppe décorative, mais comme une espèce de structure profonde de l'être, qui peut être hispanisante, je ne sais pas, mais en tout cas un mode de pensée du monde fracturé, comme un effondrement fécond. Ce qui n'est pas antithétique avec l'onirisme et le surréalisme. Et bien
on va terminer, Paloma Hermina Hidalgo, par une lecture donc, du texte, par vous, bien sûr, bien évidemment, puisque vous êtes aussi lectrice et comédienne.
Oh maman, Je ne pus rien trop goûter de mon évêque que le pouce de son pied. Et la toute première fois que je le suçais, il me manda, au moment qu'il déchargeait, de jeter un œil par la fenêtre à laquelle ses mains s'agrippaient dans les pulsations de sa joie. Sur l'allée du jardin, tu épiais maman, sautant à la corde. Tu biglais tant nos jeux que monseigneur et sa suceuse, dans la pardonnable cécité du bonheur, surprirent à peine l'instant où tes yeux apparurent derrière le vitrail. Tu fus toujours là, maman. Dès le berceau, maman, notre amour hors de mesure n'a-t-il pas présidé à ma folie ?
Paloma Hermina Hidalgo, Ferry ma perte, donc aux éditions de Corlevour. On pourra vous entendre le mardi 24 juin à partir de 19h30 au 116 rue Saint-Maur, donc lecture publique dans une librairie.
Oui, la belle librairie Libre à lire dans le 11e arrondissement, et entretien avec la fine critique Pauline de Toffoli du média Zone Critique.
Merci à vous. Merci. Maintenant, on va passer aux chroniques. On commence avec vous, Hubert Prolongeau. Première chronique ce soir. Bon, on va pas tellement s'éloigner du monde de la sauvagerie, du monde de la violence et du pouvoir, Hubert.
Non, non du tout, puisque on va parler de Sam Peckinpah, auquel Gérard Camille, ancien journaliste à Télérama et historien du cinéma, consacre la première grosse biographie qui ait jamais été écrite. Alors au passage, salons le goût de Actes Sud, d'ailleurs, pour ses biographies de cinéastes en dehors des clous. On avait eu Borzage par Hervé Dumont, Leni Riefenstahl par Steven Beck, Howard Hawks par Todd McCarthy et Claude Autant-Lara par Jean-Claude Blaise. Aujourd'hui, c'est donc un gros pavé sur Peckinpah qui nous arrive, sous-titré « Le rebelle mélancolique ». Gérard Camille et Sam Peckinpah, c'est une longue histoire, parce qu'il avait déjà publié un premier essai en 1997 chez l'Harmattan sur le cinéaste, mais là, l'œuvre a beaucoup plus d'ampleur. C'est une somme passionnante qui nous introduit aussi bien dans le récit d'une vie compliquée que dans celle d'une œuvre souvent amputée et massacrée. Côté personnel, on suit l'homme d'une jeunesse dans un ouest qui le fascine, un engagement dans les Marines et à des débuts au théâtre. Puis c'est la télévision des années 50, véritable pépinière de talents qui écloront plus tard. Et enfin, ses succès dans ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood et qui vit naître dans un climat de contestation créative, la génération des Scorsese, Coppola, Spielberg, De Palma, Friedkin et autres. Les tournages souvent très chaotiques des films de Peckinpah, la drogue et l'alcool faisaient partie du cocktail et le cinéaste créait un désordre qui prenait des proportions parfois dantesques. Ces tournages sont longuement évoqués. Ils ont donné, bien sûr, quelques chefs-d'œuvre, Les Chiens de paille, La Horde sauvage. Mais c'est après cette grande période que la biographie devient le plus intéressante, quand elle raconte aussi le déclin de Peckinpah, les films moins intéressants comme Le Convoi ou Tueur d'élite, et surtout les projets avortés et les combats contre l'industrie. Peckinpah, qui est mort à 59 ans, donc assez tôt, a aujourd'hui un peu perdu de son aura, sans doute grâce aussi à cette série de films finaux et un peu moins intéressants. On ne peut douter que ce maître-livre contribuera à la lui redonner.
Merci Hubert, une rapide mention.
Et on mentionne le retour d'un livre de l'ami Pierre Pelot, intitulé « Les grands méchants loups », un de ses romans assez délirant et hors norme dans la production de ce très prolifique Vosgien. Celui-ci tourne autour d'un écrivain, de son prête-plume et de ses lecteurs. Ouais. Et ça sort dans une nouvelle collection, La Boîte Noire, aux éditions I, qui paraît assez recommandable. On y trouve aussi un pastiche plutôt réussi de Conan Doyle, Le péché de Sherlock Holmes, signé Thierry Bataille.
Merci Hubert, et à vous retrouver en chair et en os, vous aussi, sur le plateau de Mauvais Genre. Sixtine Hubert.
Eh bien, ce soir, je vais vous parler de Stan Cuesta, qui est musicien, critique musical chez Rock & Folk et Rolling Stones, entre autres, et auteur érudit de nombreuses monographies consacrées à des icônes de la musique pop, comme on l'appelait à l'époque, de Joan Baez à Nirvana, en passant par Catherine Ringer. Et donc, Stan Cuesta publie, sous le titre « La musique a gâché ma vie », un recueil de 12 nouvelles dans ce charmant tout petit format qui est la spécialité de la maison Antidata. Alors, ces 12 nouvelles sont comme 12 petits fragments du parcours de vie d'un unique narrateur s'exprimant à la première personne, qui serait né dans les années 60 et qui aurait cheminé et grandi avec le rock. On assiste à ses côtés à son premier concert du groupe de prog français Ange. Alors ça ne s'invente pas, hein, et en ce sens, le choix des références est toujours très sincère. Il n'y a pas de poudre jetée aux yeux du lecteur. On est également témoin du passage sans transition de la lecture de Pif Gadget à Rock et Folk avec Alice en couverture, de son initiation sexuelle sur fond de King Crimson, ça aussi c'est pour vous cher François, ouais, à une peine de cœur bercée par le rock bottom de Robert Wyatt et aux bagarres hystériques du mythique club Rose Bonbon, jusqu'au choix improbable des aléas de la vie musicienne plutôt qu'à la sécurité d'un poste salarié à Radio France. Alors vous l'aurez compris, derrière ce titre antifrastique de La musique a gâché ma vie, ce petit opus raconte comment la musique rock a été le ciment naturel de l'existence de milliers d'adolescents et surtout une excellente école pour ceux qui y ont cru et s'y sont dévoués corps et âme, qu'elle a sainement gardé des pièges de la société. Et donc en somme, Stan Cuesta nous parle d'une expérience essentielle et vécue dans la chair et d'un temps où la musique valait pour autre chose qu'un simple divertissement. C'est donc La musique a gâché ma vie de Stan Cuesta chez Antidata.
Merci Sixtine Audebert, merci évidemment Christophe Siebert d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Les prochains titres à paraître, hein, puisque la saga Mervergorod continue.
Là, j'ai quelques manuscrits en cours de finition, dont un qui s'appelle Les plus belles femmes du monde, et un qui s'appelle Le messager, et qui vont s'inscrire dans ce grand...
Toujours au Diable Vauvert.
Toujours au Diable Vauvert, si, la bonne auberge. Sinon ailleurs.
En tout cas, lisez, relisez, faites lire et faites relire Une vie de saint de Christophe Siebert. C'est donc, je le répète, au Diable Vauvert, comme toute une série donc d'ouvrages qui constituent cette extraordinaire saga. Dernier livre paru d'Emmanuel Pierrat.
Toujours l'affaire Céline pour le moment.
Ah, voilà.
J'ai aux éditions Écriture l'Archipel, mais à partir de septembre, La France du crime.
Voilà. La France du crime, c'est-à-dire quoi, vous,
tout un programme.
Une sorte de globe-trotteur.
Une promenade autour de la France grâce aux assassins et aux cadavres.
Voilà. Très bien, bah, à l'occasion de
un
se
guide touristique
retrouver.
Un peu macabre. Voilà.
Paloma Hermine Hidalgo, Ferry Mapert, c'est donc aux éditions de Corlevour. Hein. Et puis je rappelle la lecture chez Libre à lire le 24 juin à partir de 19h30. La biographie Len Maus, disons-le, de Sam Peckinpah, c'est aux éditions Actes Sud. Et puis Stan Cuesta, La musique a gâché ma vie, aux éditions Antidata. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, François Saint-Jour, Claire Poissignon, Sixtine Audebert, Emmanuel Pirat, Claire-Martin Dugard, Hubert Prolongeau et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre.
Vous écoutez France Culture.
France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquête par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Hyrud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Demain, les matins seront ouverts dès 6h30 comme tous les jours de la semaine.
Guillaume Herner.
Le PS était en congrès ce week-end. Quel avenir pour la gauche? On en parle ce lundi dans les matins.
Les matins de France Culture, demain à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture? Tout de suite, les nuits de France Culture.